ya la hace bien, ¿no?
110. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Le Seigneur à la droite brise des rois à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des bêtes, des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. Quel l'ami fidèle et tendre.
Je viens sous ton pouvoir, Yahweh, frappe-moi. Oh, brise-moi, brise-moi, brise-moi.
Ce soir, tu vas m'utiliser.
Brise-moi.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu nous donnes une nouvelle soirée pour nous rapprocher davantage de toi. Afin de t'écouter, afin de recevoir de toi des orientations pour notre vie chrétienne, afin de te parler, de te présenter nos péchés, nos problèmes. Seigneur, parle au cœur de chacun de nous et que ta parole nous recrée à l'image de Jésus-Christ, ton Fils, notre bien-aimé Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton Esprit Saint, ouvre nos oreilles et nos cœurs et fais que personne ne rentre d'ici sans avoir saisi le message. Essaie de décharger de tous ses péchés. Seigneur, comme tu le sais, nos péchés sont nombreux. Pardonne-nous et dirige-nous. Bénis cette soirée pour chacun et chacune d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes toujours dans la période du carême. Et comme vous le savez, le thème qui nous conduit dans cette période, c'est « Oser recommencer ». Le sous-thème de ce soir, c'est « Perdre pour gagner ». Perdre pour gagner. Je voudrais vous rappeler que la période de carême, c'est une période au cours de laquelle nous nous rapprochons davantage de notre grand Dieu pour l'écouter, pour recevoir de lui les messages qu'il a à nous donner à travers ses serviteurs pour grandir dans la foi. Ce n'est pas d'abord le temps de danser et de sautiller, mais c'est le temps d'être calme, de revoir sa vie et de faire ce qu'il y a à faire quand Dieu nous le dira. Oser recommencer et perdre pour gagner. La vie chrétienne nous introduit dans une manière d'être qui commence par nous amener à perdre des choses. Mais ces pertes nous arrivent tout simplement parce qu'Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi à Dieu. Et à cause de ce péché de désobéissance, le monde s'est soustrait de la suprématie de Dieu seul. Et Satan, l'adversaire de Dieu, est devenu le prince de ce monde. En tant que tel, il impose ses lois à ce monde et conduit les êtres humains à agir sans tenir compte de lui, sans tenir compte de Dieu, leur créateur. À cause de cela, pour appartenir à Dieu aujourd'hui, il faut accepter d'entrer dans la vie chrétienne. Cette vie chrétienne étant complètement différente de la vie dans laquelle on vit sans tenir compte de Dieu, il faut quitter la vie sans Dieu. Il faut quitter la vie gouvernée par Satan pour entrer dans la vie avec Dieu. C'est pour cette raison qu'on parle de perte. Le Seigneur Jésus dira à la foule et à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, il dira que si quelqu'un veut être son disciple, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Il va marteler également que celui qui ne peut pas perdre sa vie, celui qui veut gagner la vie du ciel, celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu doit accepter de perdre sa vie. Le disciple doit donc abandonner tout ce qu'il peut avoir comme avantage dans ce monde gouverné par Satan, perdre même au besoin sa vie pour gagner le royaume de Dieu. Gagner le royaume de Dieu, c'est entrer dans la vie chrétienne. Et cette vie chrétienne nous impose deux grandes attitudes: le renoncement et le dépouillement. Ces deux grandes attitudes se recoupent, mais connaissent néanmoins quelques différences que nous allons voir. Essayons tout d'abord de nous fixer sur la manière d'entrer dans la vie chrétienne. Entrer dans la vie chrétienne aujourd'hui nécessite une grande perte: naître de nouveau. En effet, naître de nouveau passe par un processus qui consiste à se convertir, c'est-à-dire à changer d'orientation, faire volte-face, changer de direction et se repentir, c'est-à-dire changer de mentalité, abandonner les péchés et vivre désormais conformément aux exigences de Jésus-Christ contenues dans l'Évangile. Il s'agit donc de passer par un changement radical, décisif et sans demi-mesure. Ou si vous le voulez, mourir en sa vieille nature pécheresse, héritée de ses ancêtres, pour renaître à une nouvelle nature entièrement soumise à Dieu et contrôlée par lui. Éphésiens 4, versets 22 à 23. Mais il ne faut pas s'attendre à la perfection immédiatement après la vie nouvelle. Celle-ci doit grandir ou croître, tout comme la vie biologique. Croître en ce qui concerne la vie chrétienne ou spirituelle, c'est le développement de la vie de foi, l'approfondissement de la relation avec Dieu et l'élévation de la qualité de cette relation avec Dieu. Ainsi donc, si celui qui est né de nouveau spirituellement ne grandit pas, il meurt aussi spirituellement. De même que le bébé nouveau-né sur le plan biologique meurt s'il ne grandit pas. Le nouveau-né spirituel change donc radicalement, mais il doit grandir. Et le rythme de cette croissance dépend de beaucoup de facteurs. Il y a d'abord l'environnement. Dans quelle église, dans quel genre d'église se trouve-t-il? Avec qui marche-t-il? Est-ce qu'il reçoit des enseignements? Est-ce qu'il participe à des moments comme ceux-ci? La croissance de l'individu né de nouveau dépend également de ça, de son tempérament. Quel genre de personne est-il? Est-ce qu'il est une personne timide comme moi? Est-ce qu'il est capable de réagir? Est-ce qu'il est capable de prendre des décisions pour pouvoir aller sur son chemin, même si ce chemin n'est pas celui de tout le monde. Bref, sa personnalité joue beaucoup. Mais il faut regretter un fait. À cause de ce que la vie chrétienne n'est pas une science, à cause du fait que l'enseignement de la vie chrétienne n'est pas une science exacte, qui a des règles précises, des lois exactes, certains enseignants de la vie chrétienne ont conduit certains postulants à emprunter des mauvais chemins. Des chemins qui ont la capacité de les conduire plus loin de Christ. Au lieu de les amener à lui. C'est ainsi qu'on a dans l'église, même la nôtre, des faux chrétiens. Des chrétiens mal enseignés qui ne savent pas comment servir le Seigneur comme cela se doit, ou qui commettent de grosses erreurs ou des péchés dans leur vie de foi sans se rendre compte. Ou quelquefois, ils se rendent même compte, mais on leur a enseigné à minimiser. Tous les péchés ne sont pas très graves. On peut faire quand même des petits péchés sans que ça fasse quelque chose. Compte tenu de tout cela, nous allons essentiellement parler de deux grandes réalités. Des réalités qui peuvent parfaitement nous aider à entrer dans la vie chrétienne et à nous y maintenir. Il s'agit du renoncement et du dépouillement. D'abord, le renoncement. Qu'est-ce que renoncer? Renoncer, c'est se désister du droit qu'on a sur quelque chose. Se dessaisir de quelque chose. Cesser de s'attacher à quelque chose. Renoncer à ses opinions. Devenir chrétien, c'est renoncer à ce que le monde miroite devant nous pour nous attirer à lui. Quand je parle du monde ici, il s'agit de là où le diable a établi sa suprématie. Là où on ne tient pas compte du Dieu vivant. Devenir chrétien, c'est donc renoncer à ce que ce monde nous miroite. C'est sacrifier volontairement ce qui nous tenait à cœur, ce qui était pour nous une grande préoccupation, pour servir Christ en vivant dans la vie qui lui plaît. Si on opte pour le renoncement, on doit être capable de commencer par le renoncement à soi. Je dois d'abord renoncer à moi-même. On doit renoncer à son ego pour suivre Jésus. Bien entendu, les difficultés ne manqueront pas. Les persécutions seront là, immanquablement. Quand nous lisons la Bible ou quand nous scrutons l'histoire de l'Église, nous constatons que la plupart des 12 apôtres ont scellé de leur sang leur témoignage. Il y a même une tradition qui dit que seul Jean est mort de vieillesse. Il faut donc être capable de supporter ces persécutions, ces difficultés. La vie chrétienne authentique n'est donc pas un long fleuve tranquille, mais aucune personne n'est plus heureuse que le chrétien. Aucune personne n'est plus heureuse que le chrétien. Pourquoi? Parce que même si le chrétien connaît des souffrances, des difficultés, des persécutions, même si le chrétien connaît des souffrances, sinon physiques, du moins morales et spirituelles, il a la paix. Il a la joie. Il a la liberté. Et au-dessus de tout cela, il a son salut éternel. Quoi de plus grand, de plus merveilleux que d'être assuré qu'après le départ de cette terre, je serai à côté de Dieu, où je vivrai éternellement dans un bonheur sans fin. Tout cela fait du chrétien une personne heureuse, bienheureuse même. Le chrétien est également le sel et la lumière, comme Jésus-Christ l'a dit. Jésus-Christ a fait de chacun de nous le sel ou la lumière. De toute façon, le sel et la lumière, nous sommes les deux. Chacun est les deux. Il éclaire et il sale les relations humaines. Le chrétien sait également être humble afin d'être élevé par Dieu lui-même. C'est pour cette raison qu'aucune situation le contrarie. Il sait vivre dans toutes les situations. Il sait vivre dans la pauvreté comme dans la richesse. Il a l'esprit d'amour et de pardon, comme Jésus l'a enseigné lui-même par sa propre vie. Le dépouillement. Dépouiller, c'est enlever la peau d'un animal, comme le dit le dictionnaire. Prendre connaissance du contenu d'un texte. Voler, spolier quelqu'un. Et se dépouiller, c'est se défaire de ses biens volontairement. L'apôtre Paul demande aux chrétiens de Philippe d'avoir une conduite ou une attitude semblable à celle de Christ, qui était de condition divine, mais qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 5 à 11. Cet hymne à la gloire de Christ nous amène à fustiger une hérésie pentecôtisane que l'Église évangélique a déjà copiée, surtout les jeunes ouvriers ecclésiastiques qui estiment que comme Christ s'est dépouillé et a été élevé, tous les chrétiens doivent occuper toujours la première place. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Tous les chrétiens doivent être des riches, pas de pauvres chrétiens. Mais c'est faux. Regardons autour de nous. Il y a des pauvres chrétiens, des grands chrétiens, des grands chrétiens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Les disciples n'étaient pas riches. Ceux qui nous ont évangélisés n'étaient pas riches. Si tous les chrétiens doivent occuper la première place, qui va donc occuper la dernière? Les païens. Et même si on avait envie, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des chrétiens qui occupent la dernière place. Il y a des chrétiens qui chôment. D'ailleurs, l'hymne de Philippiens n'est pas cet hymne n'est pas conçu pour décrire de manière complète la personne et l'œuvre de Jésus. Ces versets célèbrent pourtant plusieurs de ses caractéristiques. 1. Il a toujours existé auprès de Dieu. Jésus était l'égal de Dieu. C'est-à-dire qu'il était Dieu. 2. 3. Bien qu'étant Dieu, il est devenu homme afin d'accomplir le plan de Dieu pour le salut de tous. Il n'avait pas seulement l'apparence d'un homme. Il était vraiment devenu un homme pour s'identifier à notre nature pécheresse. 3. Il a volontairement abandonné ses droits et privilèges divins par amour pour son Père et pour l'humanité. Il est mort sur la croix pour nos péchés afin que nous n'ayons pas à affronter la mort éternelle. Dieu l'a honoré en raison de son obéissance. Dieu le Père lui a rendu sa position originelle, sa position qu'il avait avant, à sa droite, où il régnera pour toujours comme notre Seigneur et notre juge. À cause de cette hérésie dont j'ai fait allusion, le chrétien doit être toujours des riches et non des pauvres, des grands et non des petits, des la tête et non la queue. Les gens, à cause de cette hérésie-là, les gens justifient leur égoïsme, leur orgueil ou le mal qu'ils font en invoquant leurs droits. Voici comment ils pensent, par exemple. Voici quelques-unes de leurs pensées. Je peux tricher à mon examen parce que je ne dois pas échouer, puisque je suis la tête et non la queue. Ou je peux dépenser cet argent pour moi seul, puisque j'ai travaillé pour l'avoir. Ou, puisque je suis chrétien, dans mon entreprise, c'est moi qui dois diriger. Et non un païen. Et on tombe dans toutes sortes de compromissions pour gagner la faveur du responsable ou même des collègues au détriment de la gloire de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons nous comporter différemment, nous dépouiller de nos droits pour le bien des autres. Nous devons nous dépouiller de nos droits pour le bien des autres. Refuser même certains avantages pour les autres. Si nous disons que nous servons Jésus, vivons aussi comme il a vécu. Soyons humbles. Soyons humbles à nos lieux de service. Même si nos efforts ne sont pas récompensés ou ne nous valent aucun compliment. Nous pouvons être élevés, cela n'est pas exclu. Nous pouvons être élevés. On peut me souhaiter être élevé. Mais ça doit dépendre tout simplement de la volonté souveraine de notre Dieu. La plus grande élévation est celle que nous aurons au ciel, dans la gloire. Ceci n'exclut pas que nous puissions faire bien notre travail, être le meilleur, utiliser toutes nos potentialités pour nous rendre importants. Pour être quelqu'un sur qui on compte, même si nous n'occupons pas la première place. Ne nous compromettons pas pour avoir beaucoup d'argent ou pour occuper les places d'honneur sur la terre pour être rejeté par Dieu au ciel. Renonçons à tout ce qui constitue un fardeau pour nous empêcher de servir et d'avancer librement dans le champ de mission. Hébreux 12, verset 1 et 2. Je demande à chacun de profiter de son passage ici ce soir, d'être sincère avec lui-même et de regarder à l'intérieur de lui-même pour voir à quoi il doit renoncer. Comme je l'ai dit plus haut, le temps du carême n'est pas le temps du tapage, le temps de sauter pour sauter, courir, faire le tour du temple. C'est le temps d'être calme et de voir sa vie. Bien sûr, nous ne ferons jamais rien pour acheter le salut. Mais nous ne devons pas non plus vivre comme si nous n'avons pas à être reconnaissants en faisant ce qui plaît à Dieu. Nous devons être reconnaissants en faisant ce qui plaît à Dieu. Et pour cette raison, nous devons profiter de tous les moments propices pour regarder notre vie devant Dieu. Pour voir si nous sommes vraiment, si nous n'avons pas des choses qui rendent Dieu triste en nous. À quoi devons-nous renoncer ce soir pour mieux être utile entre les mains de Dieu? Peut-être au mensonge. À la tricherie, à la paresse, au vol, à la délinquance, au sexe, à l'orgueil, au mépris des autres. À la paresse, à la boisson, à la colère, à la haine, au manque d'amour, à la méchanceté, à l'idolâtrie, à la magie et à la sorcellerie. Au manque de pardon. Puisque nous nous réclamons de Christ, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen.